comme tous les soirs, pour ouvrir le bal et le journal. C'est vous, Amélie Perrier, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel de ce lundi commence avec des promos mal maîtrisés.
Les Intermarchés condamnés à plusieurs centaines de milliers d'euros d'amende pour les pots de Nutella vendus à prix cassé. Souvenez-vous, la promo avait tourné à l'émeute l'an dernier. Une tête de cochon et du sang animal sur le chantier d'une mosquée à Bergerac, le futur lieu de culte et l'objet de toutes les polémiques. Israël riposte à la roquette lancée de Gaza au moment où Benjamin Netanyahou reçoit le soutien de l'américain Donald Trump à la Maison Blanche. Il reconnaît la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. Un super calculateur pour mieux prévoir la météo et surtout les épisodes dangereux. Météo France est une référence mondiale en la matière. Et justement demain, du soleil, encore quelques nuages à l'est. Le bulletin complet à la fin de ce journal avec Jean-Pierre Hameau.
À 18h15, un jour dans le monde, dans les pas de Xi Jinping en France et en Europe. Il est chez nous, vous le savez aujourd'hui. Il vient de se signer d'ailleurs un contrat de 280 Airbus. Voilà qui peut peut-être changer l'atmosphère de cette visite. En tout cas, un rendez-vous prévu aussi avec Angela Merkel et Jean-Claude Juncker. Ça, c'est pour demain. La Chine commerciale est-elle notre ennemi? Notre ennemi, est-ce qu'on est capable collectivement en Europe de se mettre en rang pour parler d'une même voix? C'est ce qu'on verra avec notre premier invité ce soir. Nous sommes aussi en Lettonie qui essaie de régler ses vieux comptes avec le KGB. Et puis, 19h20, le téléphone sonne. Alors, qu'est-ce qu'on dit? 62, 63 ans, un peu plus. Le débat est relancé. Le débat sur la retraite qui se télescope avec celui du financement de la dépendance. Il mélange ce qui a été promis, ce qui se finance, ce qui est un totem ou pas. L'âge de la retraite, vos craintes, vos envies, vos questions, 01 45 24 7000. Remettre donc de l'ordre dans les pratiques commerciales.
Et punir ceux qui abusent. La DGCCRF publie aujourd'hui son rapport annuel et malgré les états généraux de l'alimentation et les engagements de toute la chaîne des producteurs au supermarché, il reste du travail sur les reventes à perte et les prix cassés notamment. Bonsoir Manuel Ruffez.
Bonsoir.
Vous avez consulté ce rapport. On y apprend notamment qu'Intermarché a payé une lourde amende, 375 000 euros après l'épisode des pots de Nutella en promo. Alors souvenez-vous de ces scènes violentes où les clients s'écharpaient pour de la pâte à tartiner.
Et oui, on s'en souvient bien de ces clients prêts à se marcher dessus pour repartir avec le plus de pots de Nutella possible dans une promo monstre à moins 70%. On s'en souvient d'autant plus qu'Intermarché a fait ça en plein état généraux d'alimentation quand tous les acteurs s'engageaient à de meilleures pratiques commerciales. Ça a été vécu comme une pure provocation. Mais le résultat aujourd'hui, c'est qu'Intermarché l'a payé au prix fort puisque c'est le montant maximum de l'amende, 375 000 euros pour infraction à l'interdiction de revente à perte.
Voilà pour Nutella, Intermarché. On découvre aussi dans ce rapport l'arnaque au kiwi, produit en France, dit l'étiquette. Et finalement, 15 000 tonnes venaient d'Italie. 5 grossistes ont été épinglés. Et puis dans ce bilan annuel manuel, les fraudes françaises proposent aussi de donner plus de pouvoir aux consommateurs, de leur permettre de faire des signalements, c'est ça?
Oui, par le biais d'une application en test actuellement dans les régions Centre-Val-de-Loire et Auvergne-Rhône-Alpes. Quand elle sera parfaitement au point, cette application, elle sera déployée partout en France, sans doute d'ici la fin de l'année. Le constat de la répression des fraudes, c'est que le consommateur est de plus en plus vigilant et qu'il a tous les outils en main pour signaler des anomalies. Virginie Beaumenier, la directrice de la DGCCRF.
Ça va être une petite application qui permet au consommateur, par exemple, de prendre en photo une date limite de consommation dépassée, très facilement avec un petit formulaire, nous le signaler. Ça sera transmis aux professionnels qui leur permettront de corriger très vite le dysfonctionnement. Et puis, si nous avons beaucoup de signalements sur un même magasin, par exemple, à ce moment-là, nous pourrons agir et prendre les injonctions nécessaires, voire les sanctions vis-à-vis du professionnel.
Ces informations-là vont alimenter la base de données de la répression des fraudes, mais n'ont pas vocation à devenir publiques, pour éviter notamment le dénigrement entre concurrents.
Manuel Ruffez, merci beaucoup. Le gouvernement se penchait aussi cet après-midi sur la santé des Français. C'est lié. Première bonne nouvelle, la baisse du nombre de fumeurs. 1 600 000 en moins depuis 3 ans. Autre annonce pour l'avenir, des tests rapides en pharmacie pour savoir si votre angine est virale ou bactérienne, si oui ou non vous avez besoin d'antibiotiques. Une grosse poussée de fièvre au Mans aujourd'hui. Des forains ont manifesté, se sont heurtés aux forces de l'ordre, manifestation pour pouvoir continuer à travailler dans le centre-ville. Ils accusent la ville de discrimination. Le trafic des trains bloqué à Vendôme, dans le Loir-et-Cher, là c'est par les salariés d'Arjo-Wiggins. Un tribunal de commerce doit décider de l'avenir du papetier demain. 3 usines et 800 emplois sont menacés.
Le chantier d'une mosquée badigeonnée de sang à Bergerac en Dordogne.
Une tête de cochon et du sang animal retrouvés ce matin à l'entrée du site. La future mosquée de Bergerac est très contestée avec des recours en justice en pagaille. Les pistes sont nombreuses donc dans l'enquête qui s'ouvre. En tout cas, le chantier n'a jamais été aussi polémique, Emmanuel Clavry.
Ce sont les ouvriers qui terminent actuellement de monter les murs de briques du bâtiment qui ont découvert vers 7h30 les projections de sang sur le sol et sur les murs, vraisemblablement du sang de porc, et une tête de cochon accrochée à l'entrée du chantier. Une scène choquante pour Abdelkader Abdennouri, membre de l'association culturelle des Marocains de la Dordogne qui construit cette mosquée.
C'est vraiment très beau, c'est très choqué parce que la façade, il fallait la voir, elle est vraiment rouge, rouge de sang partout, partout, extérieur et intérieur. Pour nous, c'est vraiment une profanation, c'est vraiment une menace, c'était une provocation.
Opposé au projet depuis le début, le collectif des droits des riverains avait fait annuler le premier permis de construire de la mosquée. Son président, Christian Perrouni, condamne aujourd'hui les actes à 2000 euros.
Je ne suis pas favorable, je condamne, mais d'un autre côté, je comprends. On est en train d'imposer donc à des riverains d'installer une mosquée donc dans une zone de pavillonnaire. Moi, pour moi, ce n'est pas quelque chose de raciste, c'est quelque chose que les gens n'en veulent pas. Et c'est une façon de dire, vous ne nous imposerez pas votre décision. Il y aurait une cathédrale construite au même endroit, ben moi je m'y serais opposé. On est dans une zone résidentielle, on ne vient pas foutre une cathédrale dans une zone résidentielle.
Une enquête pour dégradation d'un édifice affecté au culte a été ouverte. Un délit passible de 7 ans de prison et de 100 000 euros d'amende.
Une enquête à Nice ouverte là après les blessures subies par une militante de 73 ans samedi dernier à Nice. Elle a été blessée pendant une charge des forces de l'ordre dans un périmètre où il était interdit de manifester. La famille de la militante a déposé plainte ainsi que l'organisation Attaque dont elle est porte-parole. La majorité présidentielle tout entière tournée vers les élections européennes, la ministre Nathalie Loiseau doit annoncer sa démission du gouvernement ce soir pour devenir tête de liste de La République En Marche. L'écologiste Pascal Canfin vient d'annoncer son départ du WWF France. Il est pressenti pour figurer haut sur cette liste de la REM. Le parti doit annoncer demain les 30 premiers noms. L'Europe unie pour conclure un partenariat fort avec la Chine, c'est en tout cas l'idée d'Emmanuel Macron. Il reçoit aujourd'hui et demain son homologue chinois, le président Xi Jinping. Et l'Élysée annonce à l'instant une méga commande passée par Pékin de 290 Airbus A320 et 10 Airbus A350.
La suite du journal Amélie à 18h07 sur France Inter. Rencontre aujourd'hui entre l'Américain Donald Trump et l'Israélien Benjamin Netanyahou.
En pleine campagne électorale, le Premier ministre de l'État hébreu reçoit à l'instant le soutien de son allié américain. Washington reconnaît la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan, occupé lors de la guerre des Six Jours en 67, puis annexé, une annexion jamais reconnue par la communauté internationale. La Syrie dénonce une atteinte flagrante à sa souveraineté. Netanyahou, de retour en Israël plus tôt que prévu, pour piloter la riposte au tir de roquettes de Gaza. Le projectile a parcouru 120 km avant de s'abattre sur des positions israéliennes et de faire 7 blessés légers au nord de Tel Aviv. Israël lance cet après-midi des frappes en représailles. Étienne Monin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes donc en direct de Jérusalem ?
Oui, l'armée a annoncé le début de l'opération il y a maintenant une heure. Elle a indiqué qu'elle visait le Hamas. On n'a pas encore d'éléments sur l'impact. Au moins un bâtiment a été touché. Il n'y a pas de blessés signalés pour l'instant côté palestinien. Mais l'inquiétude est très forte. Il y a un risque d'escalade. Israël est dans la dernière ligne droite des élections avec une campagne axée sur la fermeté et un Premier ministre, Benjamin Netanyahou, menacé par l'opposition et critiqué pour l'absence de solution dans sa gestion de l'enclave ces derniers mois. En face, la position du Hamas est également fragilisé. Il y a 10 jours, des habitants sont descendus dans les rues pour protester contre les conditions de vie. Le Hamas ne parvient pas à obtenir de véritables améliorations, malgré la multiplication des manifestations à la frontière tous les vendredis, qui ont coûté la vie à près de 200 personnes en une année. Il y a 10 jours, 2 roquettes avaient déjà été lancées en direction de Tel Aviv sans faire de dégâts. La réponse de l'armée israélienne avait été ferme mais mesurée. Aujourd'hui, elle a renforcé ses effectifs autour de Gaza. Des routes ont été coupées à la circulation. Les abris sont ouverts, notamment à Tel Aviv. Les groupes armés à Gaza ont menacé de viser des villes dans tout Israël en cas d'offensive.
Merci beaucoup Étienne Monin, en direct donc de Jérusalem pour France Inter. À l'étranger, encore les aveux, plus de 40 ans après, de Cesare Battisti, l'ancien activiste d'extrême gauche, vient d'avouer pour la première fois sa responsabilité dans 4 meurtres à la fin des années 70, pendant les années de plomb, donc en Italie. Il avait été condamné en 81 par contumace. Il a vécu longtemps en exil en France, puis au Brésil, avant d'être capturé finalement en Bolivie il y a 2 mois. Il purge sa peine aujourd'hui dans une prison de haute sécurité en Sardaigne. Un tribunal international, cette fois, c'est le souhait des forces arabo-kurdes qui viennent de délivrer Baghouz et donc la Syrie des djihadistes de Daesh. Ces forces réclament la création d'une cour spéciale internationale pour juger les combattants accusés de crimes, un peu à l'image de ce qui s'est fait pour l'ex-Yougoslavie. Alors, est-ce transposable aux crimes en Syrie et en Irak ? Élément de réponse avec Pierre Benazé.
Depuis les tribunaux de Nuremberg et Tokyo après la guerre, la création de cours spéciales a été utilisée à plusieurs reprises pour juger de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, et la liste en est relativement longue. Outre l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, il faut ajouter la Sierra Leone, le Liban ou encore le Cambodge. Et pour simplifier la lutte contre l'impunité, la Cour pénale internationale a ensuite été établie, mais la Syrie n'a pas ratifié ses statuts, et la procureure de la CPI a conclu que la Cour n'avait pas compétence pour les crimes de Daesh en Syrie. Pour qu'elle puisse les juger, il faudrait que le Conseil de sécurité de l'ONU l'en saisisse, mais Russie et Chine ont mis leur veto. Pour contourner ce casse-tête diplomatique, certains voudraient que l'Assemblée générale de l'ONU décide d'étendre le mandat du MIII, le mécanisme international impartial et indépendant, qui pour l'instant est chargé de collecter les preuves et pourrait éventuellement être transformé en tribunal. Pierre Benazet, France Inter, à Bruxelles.
La science à notre secours, Amélie, pour prévoir mieux les emballements de la nature.
Et Météo France va s'équiper l'an prochain d'un super calculateur. Il devrait permettre d'améliorer les prévisions des phénomènes dangereux comme les tempêtes, les crues, les canicules ou les orages cévenols. Le ministre de la Transition énergétique, François de Rugy, vient de l'annoncer lors des Assises nationales des risques naturels. Météo France est une référence mondiale. Et Sophie Bécherel, bonsoir.
Bonsoir.
L'organisme se doit donc d'augmenter ses capacités de calcul régulièrement.
C'est une course sans fin que celle des grands calculs. Pour rester compétitif, il faut renouveler les machines tous les 4 ou 5 ans et c'est dans cette perspective que Météo France a lancé un appel d'offres aux industriels. Appel d'offres financé par l'État à hauteur de 144 millions d'euros. La réponse est attendue en juin. L'objectif est d'être 5 fois plus puissant qu'aujourd'hui, autrement dit aux environs de 20 à 25 pétaflops, c'est-à-dire 20 à 25 millions de milliards d'opérations à la seconde. De quoi revenir dans le top 20 mondial et d'être sur le podium européen, sachant que Météo France fournit des prévisions météo au monde entier en faisant tourner ses modèles. Un modèle, c'est une simulation des scénarios possibles. Avec Arpège, les prévisions sont faites sur l'ensemble du globe. Avec Arom, c'est sur la France et l'Europe de l'Ouest, mais avec une précision kilométrique. Ce niveau d'état géographique est indispensable dans le cas des phénomènes intenses, comme vous l'avez dit, les orages cévenols, difficiles à prévoir à cause du relief, ou encore les chutes de neige, les crues et les cyclones outre-mer. En augmentant sa capacité de calcul, Météo France espère aussi prévoir 6 à 12 heures plus tôt ces épisodes extrêmes.
Merci beaucoup Sophie Bécherel, spécialiste science et pétaflop. Donc
bah, j'allais dire, combien de pétaflops dans ce papier, je me demande.
Énormément. Lui n'avait peut-être pas suffisamment calculé les risques. L'ancien patron de la Fédération internationale de boxe, le français Karim Bouzidi, se retrouve aujourd'hui au cœur de l'enquête sur des combats truqués lors des Jeux Olympiques en 2016. Bouzidi est soupçonné de s'être entendu avec les juges arbitres Fabrice Sabgral pour favoriser certains pays, dont la France.
La boxe française a obtenu 6 podiums aux Jeux de Rio, dont 2 titres. Jamais la France n'avait remporté autant de médailles en boxe aux Jeux Olympiques, effaçant en une compétition toutes les désillusions subies par les boxeurs français, trop souvent maltraités dans le passé par l'arbitrage. Mais à Rio, comme par miracle, pas de faute d'arbitrage, pas de scandale, pas de favoritisme, c'était presque trop beau pour être vrai. C'est pourquoi des rumeurs de manipulation ont commencé à circuler et les soupçons se sont très vite portés sur Karim Bouzidi, directeur exécutif à l'époque de la Fédération internationale. Il avait seul le pouvoir de désigner tous les arbitres et officiels d'une compétition. Et à Rio, il s'en est servi, changeant les juges et les arbitres sur certains combats, dont ceux de la France. John Dovey, le manager des équipes de France, rejette toute forme de corruption ou de manipulation.
Regardez tous les combats des boxeurs qui ont boxé à Rio et vous me direz si effectivement il y a eu des avantages ou pas. Ils ont gagné leur combat, ils ont été arrachés des victoires. Alors effectivement, des fois il y a des rounds qui glissent d'un côté et de l'autre parce que c'est très serré. Ça c'est la subjectivité de la boxe. Je sais pas à qui ça sert de remuer toute cette merde. Il faut bien que ça serve à quelqu'un. Pas à nous en tout cas, et pas à la boxe française.
Ces soupçons de corruption interviennent alors que le Comité international olympique envisage d'exclure la boxe des Jeux de Tokyo en 2020. Le dossier sera examiné par le CIO à partir de demain à Lausanne.
Il lui fut une source d'inspiration pour les plus grands Bowie, Radiohead, U2, Alain Bachon en France, mais son nom était moins connu. Le chanteur Scott Walker est mort, il avait 76 ans. C'était une référence de la pop des 60s avec les Walker Brothers. On y reviendra dans le journal de 19h.